Stéphanie Villers, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste chez Humanis. On va parler avec vous d'actualité sur l'économie. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de déficit aujourd'hui, déficit public, de peut-être panne de croissance également. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'été quand même? Est-ce qu'il y a des, aujourd'hui, sur le plan de la croissance économique mondiale, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles ou est-ce qu'il y a des signaux qui commencent à nous alerter?
Alors, si on regarde aux États-Unis, on a l'impression que tout va bien, c'est le nirvana, l'économie américaine fonctionne à plein régime. Alors ça, c'est dû au choc fiscal qu'a déclenché Trump en abaissant le taux d'impôt sur les sociétés de 35 à 21%. Alors ça a vraisemblablement, effectivement, créé une bouffée d'oxygène. Les consommateurs dépensent à tout va avec une hausse de plus de 4% sur le deuxième trimestre, ce qui fait que globalement, vraisemblablement, on va atteindre 3% de croissance sur l'ensemble de l'année 2018 aux États-Unis. Cela dit, en fait, il crée en fait par cette politique d'immenses déséquilibres et avec effectivement une pression sur les prix. Et ça, finalement, ça tombe mal et ça va mal tomber pour la Federal Reserve, qui, elle, est venue en tant que pompier après la crise des subprimes et a injecté massivement des liquidités, des milliards sur les marchés financiers. Ça a bien fonctionné parce que ça s'est propagé dans l'économie réelle. Aux États-Unis, donc, ça fait plus de 9 ans qu'ils sont en situation de croissance. Et la Fed nous avait annoncé que maintenant, elle allait normaliser sa politique monétaire. C'est-à-dire que petit à petit, elle allait procéder à un resserrement monétaire avec des hausses de taux. Puis ça tombait bien parce qu'en plus, on avait une inflation aussi qui n'était pas galopante. Hein. Tout partait dans le bon sens. Et puis là, Trump, en fait, redistribue les cartes et vraisemblablement va créer des pressions inflationnistes et ça va changer la donne. La Fed va devoir revoir sa copie.
Peut-être aller plus vite, du coup.
Et voilà. Mais quand on va plus vite, en fait, on braque l'économie et on enclenche, en fait, un risque de blocage au niveau de la croissance et puis un risque de récession derrière.
Oui, parce qu'il y a toujours, on le voit bien, les investisseurs sur les marchés financiers, ils suivent ce que dit la Fed plutôt que ce que dit Trump, même s'ils sont de plus en plus obligés de suivre aussi ce qu'il dit, compte tenu de l'impact sur les marchés. On l'a vu sur des sociétés cotées. Mais on voit bien qu'il y en a certains aussi qui se disent « mais ce n'est pas possible de remonter aussi vite que cela, ces taux, puisque justement il y a trop de dettes aujourd'hui en circulation et qu'on voit qu'à chaque fois que ça va un peu plus vite, il y a un risque économique derrière. »
Ah, c'est pas possible, mais il n'empêche qu'effectivement, la Federal Reserve a donc son mandat, une exigence, c'est celle de maintenir la stabilité des prix. Là, on est déjà à 3% d'inflation. Hein, elle va devoir agir, d'autant qu'effectivement, il va falloir qu'elle ait des marges de manœuvre en cas de retournement de cycle. Et, hein, ces marges de manœuvre, c'est quoi? C'est lorsque le cycle se renverse, eh bien, c'est baisser les taux d'intérêt pour redynamiser l'économie, c'est d'avoir une action contracyclique. Mais là, ces taux d'intérêt, elle a mis du temps à les relever. Donc finalement, elle a peu de marge de manœuvre actuellement si le cycle se retourne.
Mmh. Oui, on se dit même, c'est d'ailleurs le pari de certains investisseurs, que finalement, on va rester encore sur des taux très bas. On a déjà dit pendant très longtemps, mais là, on ne sait pas. En fait, il y a une incapacité de peut-être du schéma habituel. Hein. On parlait de cette crise de Lehman Brothers, se dire là, c'était tellement exceptionnel ce qu'a fait la Réserve fédérale américaine et ce qu'a fait la Banque centrale européenne qu'aujourd'hui, finalement, ils ne savent pas comment faire. C'est un peu les apprentis sorciers.
Voilà, ils savent pas comment faire, mais la donne est, comme je vous ai dit, en train de changer. C'est-à-dire que si Trump n'avait pas fait cette réforme fiscale qui est en train de changer les choses, eh bien, ils auraient pu procéder calmement à une normalisation monétaire. Là, vraisemblablement, je pense que 2019, ça va être un autre enjeu, un autre défi. Ils vont vraisemblablement devoir augmenter plus rapidement leur taux d'intérêt. Et ça va peser sur l'économie américaine et par effet ricochet sur l'économie mondiale.
Il y a quelque chose que n'aiment pas les investisseurs historiquement sur les marchés financiers, c'est la divergence. Donc ils aiment bien quand les banquiers centraux font en même temps la même chose. Là, on va quand même assister à une divergence, comme on avait assisté du temps de la Bouba pour les vieux boursiers. Ils se rappellent la Bundesbank. On va avoir les taux qui vont monter aux États-Unis et puis on sera à quasiment zéro en Europe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux risques qui vont apparaître là-dessus?
On a vu, à entendre la BCE, elle se dit qu'elle a encore des marges de manœuvre pour procéder Tranquillement, elle aussi, à sa propre normalisation. Hein. Il va falloir voir effectivement si la hausse des taux longs américains, si tant est qu'elle se réalise, cette hausse, elle se propage ou non sur les taux de la zone euro. Alors, ça sera une deuxième étape. Hein. La première étape, c'est déjà voir ce qui se passe aux États-Unis pour voir si effectivement ça a un effet. Négatif sur les taux longs de la BCE, enfin les taux longs de la zone euro. Il faut savoir que bon, bah, la BCE elle est encore à la manœuvre hein, jusqu'au moins jusqu'à la fin de l'année. Et si elle voit de réelles tensions, elle pourra toujours revoir sa politique, revoir sa copie et revoir sa politique monétaire.
Un mot de la France, il y a un an, quand effectivement il y avait l'élection présidentielle, il y avait en tête plein de réformes du président par le président Emmanuel Macron. Un an après, on voit que la croissance est en panne, on voit que le déficit, là, voilà, on tangente les 100%, il y en a qui disent qu'on l'a même dépassé compte tenu de dettes qui arrivent. On a parlé d'un président ultra-libéral. La situation économique en France, elle arrive à une certaine limite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu des mesures qui ont été menées, mais finalement l'impact réel sur l'économie n'est pas encore là.
Il y a eu effectivement une grosse déception hein, sur la croissance française. Je pense que, rappelez-vous, 2017, ça y est, on était lancé sur une dynamique que rien ne pouvait en fait perturber.
Retour de la confiance.
Voilà, et puis c'était l'effet Macron. Finalement, c'était le climat des affaires n'avait jamais été aussi haut niveau. Aussi, la confiance des ménages s'était redorée. Et puis, bon, bah, en fait, début 2018, ce qu'il faut savoir, c'est que Emmanuel Macron et son équipe a changé un peu de politique économique par rapport à ce qu'il avait annoncé dans son programme. Hein. Je vous rappelle qu'il voulait redonner une bouffée d'oxygène au travail et aux salariés, et il avait décidé de supprimer les cotisations salariales. Et cette suppression des cotisations salariales devait être compensée par la CSG, la hausse de la CSG de 1,7%. Bah, au final, les choses ont changé, c'est-à-dire qu'il a bel et bien augmenté la CSG, ça a braqué l'ensemble des retraités, rappelez-vous, mais d'un autre côté, en fait, il n'a pas fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a baissé finalement les cotisations salariales par étape, en deux étapes. Même chose pour la taxe d'habitation, il devait effectivement la supprimer pour 80% des foyers dès son arrivée, puis finalement, ça va se faire par étape et à partir de cette année. Donc je pense qu'en fait, il a adressé un mauvais message et que ça a été vraiment mal perçu par les ménages français qui ont finalement n'ont pas eu confiance hein, dans cette politique menée, ces différents revirements. Hein, il y a eu effectivement le énième revirement, c'est sur le prélèvement à la source. On voit en fait, il y a quand même des atermoiements dans la conduite de la politique économique. Ça manque de visibilité et ben, ça s'est traduit par une baisse de la consommation. Voilà,
Quelque part, l'économie, ça reste de la
ça.
confiance. Et donc, quand il y a ce genre d'hésitation, eh ben, il y a un moment donné un impact concret, c'est-à-dire que les gens peut-être peuvent épargner, peuvent faire un certain nombre d'actions, ne comprenaient pas ce qui est en train de se
C'est
passer.
exactement ce qui s'est passé. Si vous voulez, c'est comme ça qu'on peut effectivement le comprendre, parce qu'effectivement, il y a eu une hausse du prix du pétrole qui aurait pu agir sur le pouvoir d'achat des ménages, ou aussi en fait un espèce d'affaissement du commerce mondial. Mais enfin, on en a tous subi ça en zone euro. Il faut rappeler que la France est le dernier élève en termes de croissance. Donc, il faut chercher les raisons ailleurs. Et je pense que c'est dans la conduite de la politique économique qui a pesé sur le moral des ménages.
Est-ce qu'on peut aussi voir le poids de la dette, effectivement? C'était un sujet il y a quelques années pour certains investisseurs qui l'avaient dit ici même en disant, mais attendez, la France, c'est la France, mais si à un moment donné, elle a un vrai sujet là-dessus, elle peut être attaquée. Il y a eu une vraie confiance, on l'a rappelé il y a un an, mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on dépasse à nouveau un certain nombre de critères, est-ce que ça peut créer une inquiétude?
Alors pour le coup, à en croire la communication du gouvernement, c'est clair, ils veulent rester dans leurs engagements vis-à-vis de Bruxelles, hein, c'est-à-dire maintenir le déficit public en dessous de la barre des 3% et stabiliser la dette publique et la faire reculer petit à petit. Donc il n'y a pas de menace, puisque de toute manière, la communication va à contrario dans l'autre sens en disant vis-à-vis des marchés financiers, soyez rassurés, il n'y aura pas de politique expansionniste au niveau budgétaire.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Stéphanie Villers.
Merci.